Bonjour, cher public, bienvenue dans ce nouveau podcast Outsider. Alors là, je démarre une nouvelle catégorie des podcasts Outsider, puisque avant on avait les podcasts sur la créativité, on avait les podcasts Magneto, qui étaient des parties audio enregistrées de jeux de rôle, et puis on avait les podcasts Game Design, jeux de rôle. Et donc la nouvelle catégorie, ce sont des podcasts entièrement dédiés à l'univers de Milvaux, et puis on va pas se mentir, hein, principalement au jeu de rôle, bien centré dans l'univers de Milvaux. Alors ce premier podcast, c'est un genre particulier, ça correspond à quelque chose que je veux faire depuis longtemps, puisqu'on n'arrête pas de se poser la question, oui, les livres de jeux de rôle, voilà, c'est forcément des livres, alors que ça peut être transmis de plein de façons, tu peux faire une bande dessinée, tu peux faire un film, ceci. Et puis à chaque fois, je me faisais la réflexion moi-même, bah, par exemple, c'est vrai qu'après tout, des règles de jeu de rôle, on peut les transmettre juste par la parole. Et donc, l'idée de ce podcast, eh ben, c'est d'enfin passer, en ce qui me concerne, de passer à l'acte, puisque je vais vous proposer les règles du jeu de rôle Influenza Minima, uniquement en audio. Donc mon objectif, c'est que ce podcast se suffise à lui-même pour vous apprendre les règles. Donc à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à la fois aux personnes qui veulent apprendre un nouveau jeu de rôle, mais qui auraient un peu de difficulté à lire, hein, parce qu'elles manquent de temps, enfin pouvaient manquer de temps, pouvaient être dyslexiques. Vous pouvez tout simplement avoir des problèmes informatiques qui fait que vous ne pouvez pas télécharger le PDF d'Inforenza Minima. En plus de ça, bon bah il n'est pas dispo non plus en impression à la demande. Donc il y a plein de. Toutes ces façons expliquent que vous pourriez apprécier d'y avoir les règles d'Inforenza Minima en audio. Je vais commencer par vous renvoyer aussi vers d'autres. Vers d'autres liens audio que vous pourriez trouver intéressants, on va dire, pour compléter le podcast qui suit. Hein. C'est-à-dire, bon, il se suffit à lui-même, mais bon, je vous fournis pas mal d'autres matériels. Ça, bon, si jamais vous voulez un petit peu quand même prolonger l'expérience. Le premier, c'est le podcast La Cellule sur Inforenza Minima, justement, où bah, on détaille un peu les règles aussi pas mal, et on donne comme exemple la partie qu'on a jouée. Et autre document audio, c'est une partie enregistrée qu'on a faite avec Valentin, où Valentin maîtrise le jeu et moi je suis joueur et je lui explique les règles en même temps. Je vais me rappeler de comment elle s'appelle la partie. Si ça me revient, je vous dirai plus tard. Alors donc, je pense qu'il est grand temps maintenant que je vous explique effectivement. Bah, c'est quoi Inforenza Minima? C'est un jeu de rôle pour jouer des contes cruels dans la forêt de Milvaux. Alors qu'est-ce qu'un jeu de rôle si par hasard vous n'en avez jamais fait? Un jeu de rôle, c'est il faut qu'on soit plusieurs personnes et on va vivre une aventure à plusieurs. Il y a une personne, c'est peut-être vous justement qui êtes en train d'écouter le podcast, qui va être la confidente, c'est-à-dire que vous allez incarner le décor et les figurants de cette aventure vécue en commun, et les autres joueuses, en fait, elles vont incarner, eh bien, chacune un des personnages principaux de l'aventure, quoi. Alors, faut savoir que il y a un autre mode de jeu qui est sans confidente. C'est-à-dire que n'importe qui peut incarner le décor et les figurants un petit peu à tour de rôle. Ça s'appelle le mode carte rouge. Je vous expliquerai à la fin, parce que je pense que c'est bien d'avoir toutes les règles pour comprendre ensuite comment fonctionne le jeu sans confidente. Donc, bah, tout d'abord un petit peu de détails sur le cadre de jeu, hein. Donc ça se passe dans la forêt de Milvaux. La forêt de Milvaux, c'est notre monde. Mais qui est tombé en ruine en fait, hein, donc la civilisation s'est effondrée. Voilà, il n'en reste plus que des ruines et puis quelques reliques. Ensuite, il y a donc plusieurs paradigmes à prendre en compte. Le premier, c'est que la forêt a tout envahi et continue en fait à envahir les choses, hein. Le suivant, c'est que il y a l'oubli. L'oubli, c'est une sorte de maladie qui ronge et atteint tout le monde à des degrés divers, donc qui fait que les gens perdent la mémoire. Ensuite, on a L'emprise, c'est une forme de magie sauvage, si on veut, qui, alors certains en voient plutôt un phénomène physique qui pourrait ressembler à de la radiation, quelque chose comme ça. C'est une force qui transforme les êtres et les choses. Donc notamment, ce qui est animal peut devenir végétal, ce qui est minéral peut devenir animal, et ainsi de suite. On peut choper des mutations. Il y en a qui disent que les humains finiront un jour par tous devenir des animaux, et ainsi de suite, quoi. Alors, l'avantage, c'est vrai que le gros avantage de l'oral sur l'écrit, c'est que je pense qu'il y a des expressions que vous comprendrez mieux en fait quand je vous explique à l'oral. Je peux nuancer des choses, alors qu'à l'écrit, ça peut prendre beaucoup de temps de nuancer. Par exemple, en fait, là, ce que je peux vous expliquer, c'est que là, je suis en train de vous expliquer les paradigmes. Mais comme vous pouvez voir, c'est vachement malléable, c'est-à-dire que vous allez en faire un peu ce que vous voulez, hein, que ce soit vous, les joueuses, vous allez interpréter les paradigmes que je vous donne. Donc votre millevo à vous, il ressemblera, il sera peut-être assez différent du millevo de la table d'à côté, quoi. Et c'est juste pas grave. Et même d'une partie sur l'autre, vous allez peut-être pas du tout faire le même millevo, parce que vous serez sur un autre délire. Et ça aussi, c'est intéressant. Donc on a les ruines, on a la forêt, on a l'oubli, on a l'emprise, on a aussi l'égrégore, c'est encore une forme de magie sauvage, cette fois-ci qui est générée par les émotions et les peurs et les croyances des gens. Donc par exemple, s'il y a plein de gens qui pensent que dans la forêt d'à côté, eh bien, il y a un ogre, eh bien, il finira par effectivement y en avoir un. Soit parce qu'un des habitants de la forêt va se transformer en ogre, soit parce que l'ogre va apparaître de façon spontanée, quoi. Paf, il va sortir de terre. Et dernier paradigme, ce sont les Orlas, qui sont en fait des créatures ou des monstres issus de l'emprise et de l'égrégore. Alors là encore, il n'y a pas de. Comment il n'y a pas de définition fixe de ce que c'est un Orla, ça peut être tout un tas de créatures, quoi. Et en fait, c'est à vous de les inventer, quoi, hein, tout simplement, quoi. Donc, comment on commence le jeu? Vous allez arriver, peut-être vous aurez rien préparé de l'aventure, ou alors peut-être vous aurez préparé juste un cadre. Mais si vous préparez un cadre, franchement, il vaut mieux qu'il soit très léger, quoi. C'est une situation de départ, ou c'est un endroit, ou c'est une problématique, ou c'est quelques paramètres, mais il faut que ce soit léger. Voilà, je vais vous donner un exemple de cadre. Par exemple, il y a un compte-rendu de partie sur Internet où on refait la catastrophe de Pompéi. Pompéi, c'était une ville romaine, hein, qui a été rasée par l'éruption d'un volcan. Et donc on joue. Alors là, on décale ça un petit peu dans l'univers de Milvaux, si vous voulez, quoi. Et donc les personnages se réveillent un beau matin. Et ils ont une vision en fait de la catastrophe volcanique, et donc ils savent qu'ils n'ont que 24 heures à vivre avant de mourir eux-mêmes dans la catastrophe. Et donc ça fait qu'on pose un cadre de départ et on pose une contrainte de départ qui est de savoir que les personnages n'ont plus que 24 heures à vivre. Et donc un peu la question que pose ce théâtre, c'est eh bien maintenant que vous savez que vous êtes condamné, qu'est-ce que vous allez choisir de sauver? Enfin, quelles vont être vos dernières actions, quoi? Arrangez-vous pour qu'elles aient du sens. Donc, une fois que vous avez posé ce cadre, où justement vous avez rien posé, vous avez juste expliqué les six paradigmes comme je viens de vous le faire, vous invitez les joueuses à créer leur personnage. Donc, pour créer son personnage, une joueuse, elle doit surtout définir la quête du personnage. Qu'est-ce que le personnage cherche à faire? Alors, je vais vous citer des exemples qui sont tirés du livre. Hop. Tac. Par exemple, il y a une joueuse qui dit: mon personnage, c'est la chasseresse, et ma quête, c'est de traquer la dernière biche blanche de la forêt. Dès qu'il y a une joueuse qui a posé son objectif, les autres joueuses, elles vont devoir se trouver un objectif qui est en lien. Donc par exemple, la deuxième joueuse va dire: bah, toi tu veux traquer la dernière biche blanche de la forêt? Bah, moi je joue un ogre, et ma quête c'est de justement protéger cette biche. Et ainsi de suite, hein. Donc si vous, en fait, Ce qui est important, si on veut, c'est que chaque joueuse, l'objectif de son personnage, il doit être lié à l'objectif d'un autre personnage. Donc c'est pas forcément tous liés à Chasseresse, hein. Ça peut être lié à Ogre et ainsi de suite, quoi. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à compléter, c'est-à-dire que vous pouvez faire des objectifs liés à deux personnages, et ainsi de suite. Mais déjà, si vous avez au moins cette chaîne de causalité, franchement, vous êtes pas mal. Là, si on veut, on pourrait commencer à jouer avec juste ça. On peut un tout petit peu élaborer plus en demandant aux joueuses un ou deux symboles. Donc les symboles, en fait, c'est des mots-clés que la joueuse, elle choisit. Et c'est quelque chose qui est soit important pour le personnage, soit c'est un motif récurrent qu'on va voir apparaître dans l'aventure, notamment sur les pas du personnage. Donc ça peut être l'amour, ça peut être la couleur rouge, ça peut être la beauté, ça peut être la forêt. Ce qui est important de comprendre, c'est que le symbole, c'est pas, faut pas que la joueuse, elle doit pas penser, ah oui, mon symbole, c'est un pouvoir que j'ai, quoi. Genre, si la joueuse, elle commence à te dire, ouais, mon symbole, c'est l'immortalité, mon symbole, c'est la mitraillette. Il y a des chances, vérifier avec la joueuse qu'elle n'est pas en train justement d'essayer d'avoir un super pouvoir ou quoi, quoi. Alors, tu peux autoriser hein, que les personnages soient puissants et importants, c'est pas grave, hein. Enfin, de toute façon, tu vas voir qu'ils vont avoir autant de problèmes que des personnages faibles. Mais ceci dit, il faut que tu saches que c'est pas un jeu tactique. Et l'intérêt en fait, c'est que de faire vivre au personnage une aventure dramatique, enfin voilà, aux accents un conte cruel. Donc vérifie que la joueuse, quand elle choisit de jouer un personnage puissant, c'est bien qu'elle le fasse entre guillemets pour explorer quel est le genre d'aventure qui peut arriver à un personnage puissant. Pas juste faire un personnage puissant bah, pour être le plus fort en jeu, pour gagner l'aventure. L'aventure, tu verras que dans Inferenza Minima, on peut pas la gagner ou la perdre en fait. L'enjeu, il est un peu ailleurs. Enfin, la joueuse, elle a son objectif. Elle a tout à fait raison de jouer à fond pour gagner l'objectif. Mais en fait, il faut qu'à la fin de la partie, si la joueuse elle a perdu l'objectif, qu'elle ait quand même un bon souvenir, parce qu'au fait, au final, sur le chemin, ce qui est important surtout, c'est que elle a vécu son personnage a eu des choix forts à faire, et elle-même, elle a eu vécu des émotions fortes, et elle a vécu un drame, quoi. Alors, je donne des exemples de symboles, toujours dans le cadre de nos personnages. Bah, j'en donnerai plus tard parce que ça vient après. Alors ensuite, comment on fait pour jouer? Alors, je t'explique pourquoi j'ai. Alors, pourquoi je te tutoie, c'est plus simple. Hein, c'est vrai, on se connaît pas, mais ça m'est plus naturel. Donc, j'espère que tu me pardonneras. La vraie question de comment on joue à Inferenza Minima, c'est comment on déroule des péripéties, surtout qu'en plus tu m'as dit prépare pas de scénario, enfin j'ai aucune scène préparée à l'avance, j'ai préparé aucun décor, aucun figurant à l'avance, enfin, j'arrive, je suis vraiment tout nu quoi. Comment je fais? Eh ben en fait ton point de départ ça va être les objectifs des personnages. Fatalement, tu te doutes que les joueuses, elles vont bosser dans le sens de que leur personnage atteigne leur quête. Donc, Chasseresse, elle va expliquer comment elle s'aventure en forêt pour trouver la biche. Ogre, il va expliquer comment il s'y prend pour protéger la biche. Et ainsi de suite. Et en fait, quand tu vois justement qu'un personnage il s'approche de réaliser sa quête. Alors, une incompréhension que j'ai pu voir, c'est à la lecture, c'est des gens qui pensent, ah, en fait, ça veut dire que je commence à réagir seulement quand ils sont sur le point d'accomplir leur quête. Alors, tu pourrais, mais je te préviens, c'est casse-gueule. Ça peut amener des trucs super intéressants, mais on va dire que c'est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, en fait, c'est de s'intéresser à chaque petite étape. Dès que le personnage, effectivement, il veut franchir une étape vers la réalisation de sa quête, bah voilà, par exemple, Chasseresse, elle veut trouver la biche. C'est là que tu interviens, en fait, en annonçant un prix à payer. C'est-à-dire que dans ce monde, on n'a jamais rien sans rien. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Donc, c'est pas un moteur physique en fait, c'est un moteur karmique. Voilà, c'est le karma qui fonctionne quoi. C'est-à-dire que ouais, tu veux te rapprocher de ta quête, tu arriveras toujours à condition que tu acceptes de payer un prix. Donc, quand la joueuse, son personnage franchit une étape vers son objectif, bim, tu lui dis ok à condition que tu acceptes de payer un prix. Alors quand je dis tu t'adresses au personnage. T'as le droit de parler à la joueuse dans le jeu, mais honnêtement, tu pourrais faire toute la partie en parlant que au personnage. Parce qu'en fait, le personnage, il a conscient que s'il veut franchir les étapes, il va devoir payer des prix. Il en a toujours conscience. Donc quand il y a des choix à faire de payer le prix ou pas le payer, eh bien, c'est le personnage qui choisit. Alors évidemment, à travers la joueuse, quoi, mais voilà, c'est vrai, faut imagine quand même, garde cette idée que c'est au personnage qu'on demande de faire des choix. Donc du coup, la joueuse, si tu veux, elle va réagir en fonction de la psychologie de son personnage. Alors peut-être que elle va dire, oh, bah, le personnage, il a la même psychologie que moi, parce que c'est plus simple. Ou peut-être que, en effet, elle va lui donner une psychologie complètement différente. Bah ça, c'est elle qui choisit. Hein. Alors, je vais te donner des exemples de prix à payer génériques. Hein. Ça peut être. Alors, je prends l'exemple. Hein, Chasseresse me dit bah écoute, je m'avance dans la forêt, et puis je cherche. Je veux trouver la biche. Donc, il y a six exemples de prix à payer. Le premier, c'est la révélation d'un point faible. Ouais, bah alors, si tu fais ça. Comment l'ogre, il va savoir où tu es, parce que tu vas laisser une piste derrière toi, tout ça. Donc là, point faible en l'occurrence, c'est ta localisation dans la forêt. Une conséquence grave, eh ben, ça peut être, oui, bah t'as laissé, oh, je dis un truc horrible, hein. T'as laissé ton bébé à la maison pour t'aventurer dans la forêt chassée, eh bien quelqu'un va kidnapper ton bébé. Une obligation, bah écoute, c'est un vieux bûcheron qui te sert de guide. Et en fait, il te demande ton âme en échange. Alors, je vais revenir plus tard, mais les prix à payer, faut qu'ils soient vachement concrets. Alors là, je prends l'exemple du bûcheron qui demande, ouais, je te demande ton âme en échange. Bah, la joueuse va se dire, ouais, enfin, c'est quoi, enfin, je m'en fous, en fait, je vois pas du tout les conséquences, donc, ouais, y a pas de problème, je te donne mon âme à condition que tu m'amènes dans la forêt. Donc, si tu sens que le prix à payer que t'as demandé, il est un peu comme ça, mal défini, on voit pas trop les conséquences dans l'aventure que ça va avoir, il faut que tu complètes tout de suite en disant les conséquences. Ouais, mais tu comprends, si je te prends ton âme, eh bien, ça veut dire que. Les gens te reconnaîtront plus en fait quand tu rentreras à la maison, ta famille ne te reconnaîtra plus. Tac, en fait, là tout de suite c'est plus concret. Mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être dire bah, je te prends ton âme en fait, n'importe quand plus tard, je pourrais venir et en fait prendre ton âme, c'est-à-dire que tu vas mourir en fait, tu vas mourir et puis j'aurai récupéré ton âme quoi. Alors là c'est un peu spécial parce que mon deuxième exemple, si tu veux. C'est je demande un prix à payer plus tard en fait. Franchement, ça évite d'en abuser trop parce que c'est un peu, c'est pas très impactant. Et le risque, si tu veux, c'est que toi après tu oublies. Donc, si tu demandes des prix à payer plus tard, tu te le notes sur un papier. Bon, alors c'est ça le problème aussi, si tu veux, c'est que pour moi, une Forenza Minima, la force de ce jeu, c'est que tu peux y jouer sans papier crayon. À la rigueur, si je te fais un podcast, c'est peut-être parce que je présuppose que t'aimes pas trop écrire ou que t'aimes pas trop lire. Et que du coup, ou que t'aimes pas, ou que t'as ton temps libre, c'est pas forcément des moments où t'as un papier stylo sur toi, quoi. Là, peut-être que t'écoutes le podcast dans le train, et ben tu vois, après une fois Enzi Minima, si tu prends le train avec tes amis, ben, tu pourras y jouer dans le train, t'as pas besoin de papier stylo, tout ça, machin, t'as pas besoin de prendre de notes. Donc, si tu vends des prépayés qui se payent tout de suite, plutôt que des trucs à rebours, et ben l'avantage, c'est que t'as pas trop besoin de noter, voilà, t'es pas obligé de te rappeler effectivement que. Bah après, c'est compliqué parce que le premier exemple que j'ai dit, ouais, ta famille te reconnaîtra pas, le risque c'est que tu l'oublies aussi. Il y aura quand même toujours un peu de mémorisation, hein. Et puis même, si tu demandes un truc hyper concret, genre le bûcheron, parce que alors, l'autre exemple que du prix à payer, ça peut être un handicap. Ouais, bah le bûcheron, en fait, il te guide dans la forêt, mais comme c'est un gros sadique, en fait, il coupe ton bras avec sa hache. Voilà, c'est son paiement. Bon, là, t'as un handicap, il te manque un bras. Bah, ça se trouve, peut-être que plus tard dans l'aventure, on va oublier, quoi. On va oublier que la chasseresse, elle a plus qu'un bras, quoi. Donc, du coup, le mieux, en fait, c'est en fait, jouer assez souvent les conséquences des prix à payer. Par exemple, la prochaine fois que chasseresse, elle va rencontrer quelqu'un dans la forêt, la personne va dire, oh, c'est horrible, il vous manquait un bras, qui vous l'a coupé et tout. Peut-être même, pourquoi pas, il y a des miliciens qui vont pourchasser le bûcheron pour la mutilation qu'il a commise. Ou alors le milicien va utiliser le bras comme composante matérielle dans un sort, tu vois. On essaye, entre guillemets, que de rappeler de loin en loin que les prix à payer, tu vois, pour que ça ait un vrai impact toujours dans l'aventure, quoi. Tu vas comprendre, en fait, que In Forensa Minima, une fois que tu as compris ça, je pense que tu as compris le principal, c'est un jeu sur l'impact, en fait. Tout ce qu'on raconte, il faut que ça ait un impact de ouf, quoi. Cinquième exemple de prix à payer générique, c'est une transformation. Ben c'est pareil. Là, par exemple, le bûcheron, il est un peu sorcier. En fait, il dit, ouais, je vais te guider jusqu'à l'abysse, mais à condition que tu acceptes d'avoir des sabots de biche toi-même. Alors là, tu vois, en fait, peut-être qu'on met. Je calcule plusieurs coups à l'avance en me disant, ça se trouve, au fur et à mesure, la chasseresse, elle va se changer en biche, qu'elle va se rapprocher physiquement de la chose qu'elle pourchasse. Ou enfin, dernier truc, à la limite, c'est vraiment le plus concret, quoi, si tu veux vraiment taper dans du dur. C'est ça, c'est le sacrifice d'êtres et choses chères au personnage. Par exemple, la chasseresse, la joueuse, m'a décrit son personnage. Bah vas-y, je suis une chasseresse, je viens avec mon arc fidèle et tout, ce qui m'a permis de faire toutes mes belles prises et tout. Et le bûcheron lui dit, oui, je te dis où trouver la chasseresse, mais je te prends ton arc en échange. Donc là, si tu veux, je pique quand même une ressource à la joueuse, quoi. Alors à la joueuse, elle peut se dire, ouais, c'est pas grave, je vais refaire un arc et tout. Mais ça, c'est pas grave, ça va gérer de l'aventure, tu vois, il va se passer des trucs. Donc soit tu peux être hyper cash, tu dis, il y a un prix à payer, ou alors tu l'incorpores dans la narration, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, la règle principale, c'est le prix à payer. Et si tu veux, c'est beaucoup plus élégant de pas la vocaliser, en fait. La joueuse me dit, bah écoute, moi je vais dans la forêt, je cherche un moyen de localiser l'habit. Bah, tu rencontres un bûcheron et il te dit, moi je veux bien te guider, mais en échange, je te prendrai ton arc. J'ai pas dit le mot prix à payer, tu vois. J'ai pas comment voilà, j'ai pas dit le mot, donc ça c'est plus simple. C'est plus simple, c'est plus élégant, enfin. Et l'idée, c'est que si on s'écoutait la partie, en fait, l'enregistrement de la partie, eh ben on n'entendrait pas forcément les règles, tu vois, on n'entendrait pas qu'on est en train d'utiliser les règles, on n'entendrait que de l'histoire, quoi. C'est mieux pour l'immersion, vraiment. Donc là, si tu veux, la joueuse, elle se retrouve avec deux choix. Soit il paye le prix, bah vas-y, je te donne mon arc, et bah, guide-moi jusqu'à la biche. Ou alors il renonce. Alors ça veut dire quoi, renoncer? Ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça va un peu dépendre des cas, je pense. Il y a des fois, ça va vraiment être du coup définitivement d'après la logique des choses et tout. Bah, du coup, tu ne trouveras jamais la biche, quoi. Alors ça dépend vraiment d'à quel moment on est dans l'aventure. Si ça fait 5 minutes qu'on joue, là on est quand même sûr. Si je dis bah non, tu trouveras jamais la biche, ça va être difficile de continuer à jouer. Donc c'est juste que là, la joueuse va falloir qu'elle change de stratégie, quoi. Ça veut dire, ah bah ouais, bon bah le bûcheron, il me demande mon arc, c'est pas la peine quoi. Bah je lui dis, va te faire voir le bûcheron, je vais trouver une autre solution quoi. Et puis donc du coup, elle va te dire que comment elle s'y prend autrement, ou alors tu vas lui donner des idées. Bah, par exemple, tu pourrais aller, tu pourrais vraiment passer du temps à observer le sol jusqu'à ce que tu trouves des empreintes de la biche. Hein, par exemple. Et on repart là-dessus. Et peut-être avec du coup un nouveau prix à payer. Ah ouais, bah pour repérer les empreintes de la biche, il va falloir que tu t'avances dans le territoire d'un dangereux sanglier et tu risques de te prendre une blessure, quoi. Et ainsi de suite, quoi. Là, on est sur quelque chose de linéaire, quoi. Sur des trucs, si tu veux, qui sont un petit peu, qui sortent un peu de l'objectif de la joueuse, quoi. Si tu peux, montre bien que le prix à payer, c'est la chance unique d'arriver, de franchir l'étape, et que si la joueuse, elle renonce, eh ben c'est grillé à jamais, quoi. Fais-le à chaque fois que tu peux, quoi. À chaque fois que ça remet pas complètement en cause, eh ben l'aventure, quoi. C'est-à-dire qu'on peut plus jouer. Et puis si à un moment c'est vraiment pas crédible, tu vois, parce que des fois la joueuse va dire bah non mais ce serait quand même c'est vraiment très bizarre qu'il n'y ait que le bûcheron qui soit capable de me dire où trouver la biche. Bon bah là c'est pareil, tu évites quoi. Hein. Ça c'est vraiment c'est du feeling. Hein, Tac. Alors, je vais faire des petites nuances. Par exemple, tu peux entendre une volonté du personnage et annoncer un prix. Par exemple, donc, chasseresse, elle arrive en face de la biche blanche. Tu lui dis, oh, bah, c'est le plus bel animal que tu aies jamais vu. Bah, tu peux, comment, ouais, tu peux la tuer, là, à ta merci. Mais tu sens qu'elle est protégée magiquement. Si tu la tues, tu vas mourir aussi. Alors là, tu vois, je balance un prix à payer cash, quoi. Parce que j'ai identifié l'objectif du personnage et je fais payer un prix. Bah là, tu vois, finalement, je me rends compte que je suis complètement parti dans le truc que je te disais, qui était en fait, on pouvait arriver tout de suite à la fin, sauf que la fin, elle coûte tellement cher que du coup, on va rejouer plein de choses depuis là. Parce que là, finalement, ça fait. Vas-y, ça fait 5 minutes qu'on joue et puis bah, j'ai déjà fait arriver Chasseresse devant la biche, quoi. Mais vu le prix à payer que je lui dis, là, Chasseresse, elle va hésiter, quoi. Ah ouais, si effectivement il y a un sort sur la biche qui fait que si je la tue, je meurs aussi. Là, à ce stade, j'ai pas tellement envie de mourir, quoi. Autre exemple, c'est du coup, qui n'a rien à voir avec un objectif de personnage, c'est faire une proposition séduisante mais payante. Par exemple, bon là, la biche, elle s'est barrée parce que Chasseresse n'a pas osé la tuer. Et du coup, elle va dans la tanière d'ogre. Et puis je dis à la joueuse d'ogre. Eh ben, la biche, elle veut frotter son museau contre ton visage, et tu sais que si elle fait ça, tu vas devenir enfin beau, parce que voilà, elle est magique, mais elle-même, elle va perdre sa beauté. Et du coup, est-ce que tu la laisses s'approcher, quoi? Voilà, toi, bon, toi, ogre, t'es tout moche et tout, est-ce que tu acceptes de voler la beauté de la biche ou pas, quoi? Ça n'a rien à voir avec l'objectif de la joueuse d'ogre, hein. Puisque elle, son objectif c'était protéger la biche. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est un peu transverse parce que là, quelque part, ce que je fais, c'est que je lui propose un petit peu d'enfreindre son objectif parce que si elle vole la beauté de la biche, Bah effectivement, on n'est plus trop dans le trip je protège la biche. Et sinon, je peux annoncer une issue tragique et ensuite un prix à payer pour l'éviter. Bon, mettons, chasseresse est toujours à la recherche de la biche et son écuyer qui la rejoint en chemin. Et en fait, il y a le père de la biche qui est le cerf qui les trouve et qui les charge. Et je dis, ouais, le cerf va t'embrocher, tu serais alors paralysé le restant de tes jours, tu vois. Alors j'annonce vraiment ce qui peut arriver de grave. À moins que, parce que tu vois l'écuyer, en fait, il court entre toi et le cerf, il s'interpose. Donc si tu le laisses s'interposer, en fait, eh ben toi, tu seras, le cerf va bah, forcément va t'épargner, quoi. Et donc tu seras pas paralysé comme tu le craignais. Mais par contre, ton écuyer, il va se faire embrocher, il va mourir, quoi. Donc là, c'est pareil, tu vois, je donne un. En fait, tu vois, c'est on donne des choix mortels, hein, c'est ça le jeu, quoi. Autre exemple, justement, annoncer un choix mortel, choix cornélien, c'est bah, il y a les chiens de chasse qui envahissent la tanière d'ogre, et puis ils s'apprêtent à la fois à dévorer la biche, mais aussi l'enfant d'ogre. Alors bon, là, il y a deux. Comment? Il y a plusieurs trucs. En fait, c'est vrai que là, je te reprends les exemples que j'avais mis par écrit. Et en fait, c'est là que je me rends compte, mes exemples, ils font pas mal d'ellipses, quoi. Là, j'ai deux solutions, en fait. Soit, ça veut dire qu'il y a un moment, la joueuse d'ogre, elle a expliqué que son personnage, il avait un enfant. Bon, bah ok, elle avait pas de problème. Ou soit, c'est moi, en fait, qui dis, qui fait plein de présupposés. Les chiens de chasse arrivent dans ta caverne. Du coup, ils risquent de s'en prendre à la fois à la biche et à ton enfant. Et en fait, là, tu vois, je force un peu le truc en me disant, bah, de toute façon, là, la joueuse, maintenant que j'ai dit le mot, ça va être difficile pour elle de dire, mais non, non, mon personnage, il n'y a pas d'enfant, il n'a aucune attache. Il y a une façon quand même un peu plus, on va dire, cool, qui est de dire, t'es d'accord pour dire que ton ogre, il a un enfant? Et bon, encore plus cool ou encore plus cruel, ça sera à toi de me dire, c'est en fait, avant que tu fasses arriver les chiens de chasse, tu prends un petit temps pour savoir si effectivement, au fait, comment ton ogre, il n'aurait pas des enfants. La joueuse va peut-être dire, ouais, effectivement, oui, c'est possible. Et du coup, ton enfant préféré, comment il s'appelle, ainsi de suite. Enfin, qu'est-ce que, voilà, à quoi il ressemble Pourquoi tu l'aimes bien? Donc je voulais redonner un exemple de qu'est-ce qui se passe en fait quand un personnage renonce. Bah, par exemple, Chasseresse, donc son écuyer il est mort. Et du coup, en fait, comme s'il s'est interposé entre elle et le cerf. Et du coup, Chasseresse, elle fait Ouais, bah vas-y, je vais tuer le cerf quoi, pour venger mon écuyer. Et là, moi, je lui dis par exemple, bah, tu peux le tuer, mais le cerf se met à parler. Oui, c'est un cerf magique. Hein. Donc, tu vas voir que dans le monde de Milvaux, enfin, surtout pour Inforenza Minima, tout est magique. Hein. Ça va vachement t'aider pour les prix à payer, en fait. Honnêtement, tu n'aurais pas la magie, tu aurais du mal à t'en sortir, quoi. Donc, le cerf, il parle et il se met à dire Non, non, épargne-moi, comment épargne-moi, et puis je te dirai où trouver la biche. Et là, en fait, Chasseresse, elle répond, ouais, bah effectivement, j'épargne le cerf pour qu'il me dise où est la biche. Quelque part, si tu veux, là, on a un exemple où la joueuse, elle a renoncé à payer le prix. Mais le jeu continue. C'est ça qui est important, parce que moi, j'ai lu sur Internet, vas-y, les joueuses, elles renoncent jamais. Parce que renoncer, tu vois, renoncer à payer le prix, eh ben, c'est arrêter le jeu. Mais en fait, tu vas voir que si tu y réfléchis bien, il y a plein de situations, surtout si tu balances des prix à payer tout le temps, quoi. Il y a plein de situations où en fait renoncer c'est encore jouer quoi. C'est plutôt choisir entre, en fait tu choisis entre deux options, entre deux embranchements de l'aventure quoi, également intéressants quoi. Là l'embranchement qui était, vas-y je joue la mort, la vengeance contre le cerf, je tue le cerf. Ou l'aventure, c'est bah en fait je me concentre plutôt sur la de recommencer la traque de la biche quoi. Donc, si jamais un personnage il atteint sa quête ou qui renonce définitivement à sa quête, eh bien la joueuse soit elle change de quête, soit elle change de personnage, tout simplement. Alors je reviens au symbole. Pourquoi j'en ai pas parlé avant? Parce qu'en c'est vrai que c'est la création de personnage, mais c'est facultatif. En fait, tu peux très bien jouer sans les symboles. Mais l'avantage des symboles, c'est que ça va te donner. Déjà, bon, la joueuse, tu vas demander de définir ses symboles, ça va l'obliger à étoffer son personnage. Donc finalement, t'as une création de personnage avec un objectif de symbole. Ça a l'air de pas grand-chose comme ça, mais c'est déjà beaucoup pour. Pour typer le personnage, tu vois, la joueuse après elle aura des idées pour le décrire, expliquer comment il réfléchit, tout ça. C'est déjà un très bon départ. Alors je te donne des exemples, la chasseresse comme symbole, elle a pu choisir la persévérance et la beauté, quoi. Persévérance, voilà, elle renonce jamais. Et la beauté, bon bah, la beauté, c'est peut-être parce qu'elle est belle, c'est peut-être parce qu'en fait, elle sait ou au contraire qu'elle déteste la beauté, tu vois, pourquoi elle veut tuer une biche? C'est peut-être qu'elle a quelque chose contre la beauté, quoi. Bon, en tout cas, c'est juste la joueuse qui a envie qu'il se passe des trucs par rapport à la beauté dans l'aventure, quoi. C'est une sorte de commande qu'elle fait à la confidente, un petit peu, quoi. Mais bon, la joueuse aussi, elle a invité tout au long de la partie à se rappeler tes symboles, puis à en faire quelque chose, quoi. Hein. Mais c'est bon, si elle veut rester immergée dans le personnage, tu vois, elle va donner ses symboles au début, et elle, après, elle va complètement les oublier. Et c'est juste pas grave, c'est aussi une bonne façon de jouer. L'ogre, le cas de l'ogre, il a demandé comme symbole la transformation et la misère. Misère, misère. Pourquoi est-ce pour sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément? Donc des petits trucs de protection quand même, parce que c'est vrai qu'Inflorenza Minima, c'est quand même un jeu qui va un peu loin dans les thématiques, tout ça. Donc des petites choses pour se sentir à l'aise, quoi. Le truc tout bête, c'est que si vous êtes mal à l'aise, dites-le moi en aparté, et puis j'arrangerai les trucs discrètement, quoi. Donc la joueuse va venir te dire en aparté, bah voilà, je suis mal à l'aise parce que l'autre joueur il se comporte de telle façon et je trouve ça glauque, ou parce que toi MJ, effectivement tu racontes des trucs qui me mettent trop mal à l'aise, vu les prix à payer que tu me demandes, c'est vraiment, ça me sort du jeu, quoi. J'ai plus là, je suis en train de souffrir, je suis pas en train de jouer, quoi. Il y a les bras en croix en fait, c'est-à-dire que dès qu'il y a une joueuse qui pense que ça va trop loin, hop, paf, elle met ses bras en croix. Là, tout le monde doit s'arrêter. Alors, soit on discute pour voir ce qui va pas, soit des fois c'est évident en fait ce qui ne va pas. Et puis, du coup, par exemple, je dis n'importe quoi, on décrit au moment où l'écuyer il se fait. Comment il se fait tuer. Bon, de toute façon, la joueuse, elle savait que. La joueuse de chasseresse, elle savait très bien qu'il allait mourir quelque part. C'est elle qui l'a dit, oui, effectivement, j'accepte qu'il meure pour me protéger, moi. Et là, toi, en tant que confidente, tu te mets à décrire. Vas-y, le cerf embroche l'écuyer, il y a des tripes et des boyaux qui volent dans tous les sens, un œil qui saute, ainsi de suite. Ah, t'es en train de faire une grosse description bien gore, et là tu vois la joueuse de chasseresse qui met les bras en croix. Bon, tu sais, tu comprends tout de suite que c'est au niveau du gore qu'il y a un problème, donc tu t'arrêtes quoi. Tu passes tout de suite à autre chose, quoi. On n'en parle plus. Ok, bon, bah, qu'est-ce que tu fais maintenant que effectivement, ton ami s'est sacrifié pour toi? Et hop, on passe à la suite, quoi. Le truc tout bête, c'est de temps en temps, il faut que tu demandes au jeu si ça va, quoi. Ça va, ça va. Bon, sinon, il y a les pouces. Donc, si tu veux, en fait, ça c'est pour réguler l'intensité, quoi. Si tu les joueuses, elles lèvent le pouce vers le haut, c'est qu'elles veulent que ça aille plus vite, qu'il y ait plus de tension, que les prix à payer soient plus cruels, ainsi de suite. Par contre, si elle baisse le pouce, bah, tu comprends que c'est l'inverse, quoi. L'idée, c'est que s'il y a une joueuse qui lève le pouce, tu demandes à toutes les autres joueuses en fait de montrer leur pouce en fait, et tu vas rendre les choses plus hardcore que si tout le monde lève le pouce. Par contre, il y a une joueuse qui baisse le pouce, c'est-à-dire qui veut que ce soit plus soft, tu passes en plus soft en fait. C'est-à-dire que quelque part, c'est la personne la plus fragile qui a raison. Tu comprends? Si on veut que ce soit plus hardcore, il faut que tout le monde soit d'accord, tout le monde lève le pouce. Si une personne baisse le pouce, eh bien, il n'y a aucune concertation, on va forcément un petit peu ralentir l'aventure, être moins, demander des prix à payer moins dégueulasses, et ainsi de suite, quoi. Bon, tu peux organiser des votes, hein, c'est-à-dire une fois par heure, tu demandes les pouces, ainsi de suite, quoi. Si tu t'apprêtes à dire un truc qui est vraiment intense, vraiment dur, avant, demande si t'as le droit d'être méchant ou méchante, ça dépend si t'es une fille ou un garçon. Voilà, est-ce que là, attention, je m'apprête à dire voilà, je m'apprête à dire quelque chose d'assez dur. Est-ce que tu me laisses le droit ou est-ce que je préfère que je t'épargne? Donc là, la personne va, si elle te dit oui, bah c'est bon, tu peux y aller. Des fois, elle va te dire non, bah dans ces cas-là, tric-trac, hein, tu remets ton histoire dans ton sac, hein, et tu trouves autre chose de plus soft que ce que tu avais prévu. Et puis, des fois, elle va dire, bah attends, dis-le-moi en aparté, ce que tu avais prévu, et je vais te dire oui ou non, quoi. Alors, bon, honnêtement, là, si on veut, je pense que tu as vraiment les trucs les plus importants, l'objectif, les deux symboles. Le prix à payer. Et puis toutes les petits trucs là de pour être à l'aise. Un truc sur le pour être à l'aise, le truc le plus important que tu devrais rappeler à la limite au début de la partie, c'est franchement, si quelqu'un est mal à l'aise, il faut absolument que cette personne elle le dise, parce que si elle se tait, eh bien ça va vraiment diminuer le plaisir de tout le monde. Peut-être que ce sera pendant la partie, peut-être que ce sera plus tard, mais forcément à un moment en fait, eh bien le plaisir de tout le monde sera gâché. Ouais, ça c'est vraiment important quoi, il faut faire gaffe à ça quoi. Alors ensuite, la règle qui suit c'est charger son cœur. Là, on commence à être dans les trucs bien, bien facultatifs, quoi. Charger son cœur, en fait, c'est à tout moment, si tu veux, un personnage, la joueuse, elle peut décider de prendre une décision néfaste pour son personnage, ou d'accepter, ou que son personnage accepte un truc qui est néfaste pour lui. Et en échange, en fait, le personnage, il va charger son cœur. Ça veut dire que si tu veux, il prend du bon karma, quoi. Si le personnage il fait un truc qui est clairement une mauvaise idée, tout ça, eh bien, il récupère du bon karma. À quoi ça sert de charger son cœur? C'est-à-dire que ça sert que plus tard tu vas pouvoir le décharger. C'est-à-dire qu'au moment où on te demande de payer un prix, eh bien tu peux dire non, je décharge mon cœur et comme ça je paye pas le prix. Des petites précisions qui sont importantes, hein, parce que tu vois, il y a des joueuses, elles vont négocier avec charger son cœur, hein, elles vont essayer d'avoir ça pour tout et n'importe quoi. C'est encore une fois, toi toi la confidente qui a vraiment toute autorité pour estimer que ça vaut que telle action qui nuit au personnage mérite de que ça lui permet de charger son cœur, quoi. Ah, donc. Si la joueuse de chasseresse te dit oh bah écoute tiens je donne 2 pièces d'or à un clochard, vas-y quand même j'ai fait un truc j'ai fait un comment j'ai donné de ma personne, ça mériterait bien que je charge mon cœur. Sérieux, soit tu lui dis bah non attends c'est trop facile quoi, non non cherche pas ton cœur avec un truc aussi trivial quoi. Ou alors tu peux être un peu retors en disant oui mais peut-être seulement si les pièces d'or elles contiennent par exemple la mémoire de ton père, quoi. Tiens, je joue avec la mémoire, hein, justement. Et puis là, tu peux faire une scène où en fait, tu commences à voir le fantôme de ton père à côté de toi, et si tu donnes les pièces d'or au clochard, il commence à disparaître. Alors, est-ce que tu le fais vraiment? Bah, c'est vrai que si tu le fais, tu chercheras ton cœur, quoi. Donc, ça, c'est la joueuse qui va avoir des idées pour charger son cœur, et puis toi, tu valides ou tu valides pas, quoi. Soit c'est toi-même, en fait, tu vas proposer des situations où on peut charger son cœur, quoi. Hop. Donc par exemple, comment vous arrivez dans une auberge et là les aubergistes, ils vous demandent quelque chose de mirobolant, par exemple, si tu veux pouvoir dormir à l'auberge. Eh bien, tu dois accepter d'avoir, comment, tu dois accepter une transformation. Par exemple, tu vas avoir une tête de biche, mais c'est vrai qu'en échange, tu chargeras ton cœur. Bon, bah là, effectivement, tu t'as proposé en fait une façon de charger son cœur. Chasseresse, eh ben, ça sera elle de voir si effectivement ça vaut le coup de ressembler de plus en plus à sa proie, juste pour avoir un cœur chargé, quoi. Hop. Alors, je pense qu'à ce stade, je peux t'expliquer comment on joue sans confidente. Alors, jouer en confidente, ça se passe comment? Ça se passe que... tout simplement... Alors, attends, j'avais un truc sur les prix à payer. Ah oui, le truc est important, en fait. Au moment où tu demandes un prix à payer... Si la personne elle renonce à payer le prix, elle peut pas charger son cœur. Ça marche pas comme ça. Hein. Tu comprends ça? Elle peut pas, bah par exemple. Donc là, mon exemple de l'auberge, c'était pas un prix à payer, si on veut. Hein. C'était ça, quelque part, ça avait rien à voir avec la réalisation de la quête. C'était pas une étape. Si toi, dans ta tête, en tant que MJ, t'étais en train de demander un prix à payer et que la joueuse, elle te répond. Non, mais je paye pas le prix. Du coup, j'ai pas ce que je veux. Mais du coup, ça mérite bien que je charge mon cœur. Faut que tu dises non. Et inversement, des fois, moi, j'ai vu des joueuses qui, ah ouais, bah du coup, je paye le prix. Mais du coup, attends, pour avoir ce que je veux, mais tu comprends quand même que là, la vache, ben, je donne beaucoup, donc je charge mon cœur. Bah non, non, non. Parce que t'as payé un prix, c'était pour obtenir quelque chose. Donc, en fait, charger son cœur, c'est une autre transaction. Tu comprendras que le prix à payer pour obtenir ce qu'on veut, c'est une des transactions du jeu. Charger son cœur, c'est une autre transaction qu'il y a dans le jeu. Ça se passe pas au même moment. Le rapport entre les deux, c'est que quand tu as chargé ton cœur et qu'à un moment on arrive dans la transaction, ton personnage veut avancer dans sa quête, la confidente lui demande un prix à payer, et ben elle peut décharger son cœur pour effectivement, ne pas avoir à payer le prix, quoi. C'est magique, hein. Cherche pas forcément le rapport de cause à effet. Tu peux t'amuser à expliquer le rapport avec sans doute un. Puis même si tu l'expliques, à mon avis, tu vas l'expliquer par la magie. Mais tu peux très bien ne pas expliquer, hein. Ça, c'est à toi de voir à quel point tu aimes raconter et te tordre de cerveau, quoi. Si la joueuse peut très bien dire, bon, bah, je décharge mon cœur. Là, tu m'as demandé un prix à payer. Non, non, bah, moi, je décharge mon cœur. Je vais avoir le truc gratuit. Autre truc important. C'est que, évidemment, on ne peut pas charger son cœur plusieurs fois d'un coup. Tu peux pas dire, ah bah j'ai trois charges sur mon cœur, quoi. Pourquoi c'est fait? Parce que le jeu est quand même prévu pour qu'on y joue, ben, tu vois, sans prendre de notes ni rien, quoi. Donc, je pense qu'on peut se retenir qu'on a chargé son cœur une fois. Au niveau mémorisation, ça me paraît jouable. Si on commence à le charger plusieurs fois, là, à mon avis, c'est impossible à mémoriser. On est obligé de recourir à des notes. Donc, on s'éloigne de l'esprit du jeu. Bon, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que décharger son cœur, il faut qu'il y ait une tension, il faut que ce soit un vrai choix, quoi. Tu dis, ah ouais, j'ai chargé mon cœur, bon, bah voilà, j'ai qu'une. Ça me fait ça me fait qu'un point de karma, en quelque sorte, il faut que j'utilise à bon escient. Si tu as trois charges dans ton cœur, la tension, elle est absente. Hein. Alors, par contre, ce qui est possible de faire, c'est charger son cœur, le décharger, le recharger, le décharger, ainsi de suite. Ça peut arriver plusieurs fois. Hein. Surtout si tu joues des parties longues, il peut y avoir un cycle comme ça. Hein. Ouais, donc je disais comment on joue sans confidente. Eh ben, l'idée, c'est que. Chaque joueuse, du coup, va jouer à la fois son personnage, les décors et les figurants. Soit c'est à la when again, chacun le fait un petit peu comme il veut, quoi. Soit c'est par tour, c'est-à-dire que quand c'est le tour d'une joueuse, elle joue juste son personnage, et puis donc les autres joueuses vont jouer le décor et le figurant. Ou alors ça peut être elle joue juste son personnage. Et tout le monde joue le décor et les figurants, mais si tu veux, on est quand même focus sur l'histoire autour du personnage. Mais mettons, c'est autour de la joueuse de chasseresse de jouer. Elle commence à expliquer qu'elle se balade dans la forêt, toujours à la recherche de la biche. Les autres joueurs, n'importe qui, y compris elle, peut raconter des trucs au sujet du décor et des figurants. Mais bon, globalement, on s'intéresse à l'histoire de chasseresse, quoi. On va pas parler d'un truc qui a rien à voir, quoi. Et donc, on a toujours les transactions, justement, les fameuses. Alors, l'idée, c'est que là, c'est pareil, tu vas te servir des symboles. Bon, plus tard, je vais te donner d'autres conseils pour la confidente. Quand on joue sans confidente, bah, les conseils sont juste valables pour tout le monde, quoi. Donc, le mieux, entre guillemets, c'est que si tu joues sans confidente, c'est que tout le monde écoute ce podcast avant de jouer. Bon, évidemment, c'est peut-être beaucoup demandé, hein. Donc, du coup. Si tu fais pas ça, bah, il faut que tu réexpliques toi-même, tant bien que mal. Donc peut-être tu vas prendre moins de temps que moi. Hein, donc faudra pas t'étonner que les joueuses elles aient plus de difficultés, quoi. Elles vont faire des trucs peut-être moins intenses que ce que tu vas faire toute seule, quoi. Hein. Bon bah ça c'est juste de la gestion du temps. Hein. Est-ce que tu as le temps de vraiment expliquer toutes les règles avant de jouer ou est-ce que tu contentes du minimum, dire bon bah voilà, chacune. Ça, c'est à toi de voir. Le plus important, c'est qu'on garde toutes les règles, en fait, notamment le prix à payer. Ça veut dire que s'il y a un personnage qui commence à se rapprocher de sa quête, et ben bim, il y a une autre joueuse qui doit annoncer un prix à payer. S'il y a un personnage qui a une opportunité de faire quelque chose qui lui est néfaste, et ben bim, il y a une joueuse qui propose que ce soit possible de gagner, de charger son cœur. Voilà, hein, c'est pas si compliqué que ça en fait. Quelque part, ça veut juste dire que les joueuses, elles s'arbitrent les unes les autres, quoi. Hein. Donc c'est ça l'idée. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme règle? Donner pour reprendre. Ouais. Ouais, je vais d'abord faire donner pour reprendre. C'est quoi l'idée de donner pour reprendre? C'est que, si tu veux, le problème qu'il y a avec les prix à payer, il y en a deux. Le premier, c'est que tu as vu quand même la création de personnage, elle est courte. Donc, il y a des chances quand même que la joueuse, son personnage, il soit tellement squelettique au départ, qu'en fait, quand tu vas lui demander des prix à payer, eh ben, tu ne sauras pas quoi lui demander, parce qu'en fait, le personnage, il n'a rien à payer, quoi. Donc voilà ça. Et l'autre truc, c'est que en plus de ça, bah voilà, ouais, donc ouais, il y a ça. Et l'autre truc, c'est oui, c'est connaître pour faire mal. C'est que si tu demandes des prix à payer comme ça, un peu random, un peu aléatoire, si tu. Franchement, t'as 9 chances sur 10 pour que à la joueuse, tu demandes un prix à payer qu'elle s'en fiche, quoi. Je sais pas, par exemple, je reprends l'exemple, ah bah le bûcheron, vas-y, comment Le bûcheron, il veut bien que te dire où est la biche, mais je te préviens, pendant votre longue absence, ton bébé qui est resté à la maison, il va se faire kidnapper. La joueuse, elle va dire ouais, bah je m'en fous, enfin voilà, je m'en fous. Chasseresse, c'est une mauvaise mère. Sérieux, c'est pas la première fois qu'elle laisse son gamin pour partir à la chasse. Donc bon, c'est pas grave. Hein. Chasseresse, elle s'en fout. Alors quelque part, c'est intéressant. C'est intéressant parce que si tu veux, t'as quand même obligé le personnage de la joueuse à faire un positionnement moral. C'est-à-dire que on a maintenant, on en sait un peu plus sur les valeurs de chasseresse quand même. Et donc, tu vas pouvoir jouer avec plus tard, quoi. Mais ceci dit, l'idée, c'est quand même de pas uniquement jouer sur le positionnement moral. Il faut quand même que tu puisses, au moins de temps en temps, proposer des prix à payer que au moins le personnage, ça va l'affecter. Enfin, hein, c'est-à-dire qu'au moins Chasseresse, elle va souffrir quand on va lui demander tel prix à payer. Parce qu'on touche à quelque chose qui est vraiment important pour elle. Et au mieux, c'est la joueuse, elle va être affectée. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de te demander de traumatiser tes joueuses. Hein. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est plutôt juste les permettre d'accéder à l'émotion. En fait, l'idée, je te demande de pas de les traumatiser, je te demande de les toucher, tout simplement, quoi. De toucher leur corps sensible. Alors, c'est vrai que c'est un jeu, par contre, je vais le dire tout de suite, c'est un jeu qui est un peu dangereux, hein, dans le sens où, quand on joue avec les corps sensibles d'une joueuse, il y a des risques, c'est que ça craque. Hein, donc, c'est aussi pour ça que je t'ai dit toutes les précautions qu'il y avait avant et tout. Peut-être que, à la rigueur, la meilleure précaution que tu puisses prendre en début de jeu, c'est dire. On joue des comptes cruels, je vous préviens, ça va être cruel, et l'intensité et le plaisir du jeu, elle vient de là, quoi. Comme ça, bon, bah, tu as averti la joueuse, quoi. Elle est. Une joueuse avertie en vaut deux, quoi. Bon, c'est pas parce que tu l'as avertie qu'après, tu peux te permettre les pires excès. Mais c'est quand même bien de l'avoir fait avant, hein, quitte à ce qu'il y ait une joueuse qui te dise, bah non, bah, on va jouer à autre chose si tu veux bien. Ou quitte à ce que tu joues un petit peu en demi-teinte, bon bah voilà, on va jouer pas trop trop cruel, parce que bon, je vois bien que c'est pas trop ce que vous avez envie de faire, vous avez quand même, vous aimez bien l'ambiance, la forêt, les contes, tout ça, mais effectivement, vous n'avez pas envie de saigner du cœur, donc bah, je vais demander des prix à payer, pas hyper méchant, quoi. Bah ça c'est du dosage, hein. J'ai pas la réponse pour toi. Hein. C'est vraiment à voir avec tes joueuses et puis surtout à la fin de la partie, de toute façon, même pendant la partie, t'en discutes, tu demandes si ça va, tout ça. Et puis c'est au fur et à mesure, hein, vous allez vous harmoniser, hein, voilà tout quoi. Peut-être juste à la limite un truc que je te dirais d'éviter de faire, mais moi-même ça m'arrive, mais quand je le fais, c'est pas exprès. C'est évite d'aller chercher au niveau des traumatismes personnels de la joueuse, quoi. Je sais pas, si la joueuse, une fois, elle a été agressée dans la rue, évite de lui dire que le prix à payer, c'est que des brigands, lui cassent les jambes, quoi. Parce que là, tu vas remuer des trucs, hyper perso, et là, on n'est plus du tout safe, hein. Tu me comprends, hein, si la joueuse elle aime pas les araignées, évite de lui dire que le prix à payer c'est que son personnage il est plein d'araignées dans le caleçon, quoi. Voilà, si tu fais ça, je te vraiment, tu prends tes responsabilités vis-à-vis de la personne, quoi. Moi je suis plus derrière toi, on va dire, c'est tout, quoi. Donc, ouais, j'ai dit le mode sans MJ. Je pense que. Ouais, donc connaître pour faire mal. L'idée, c'est qu'en fait, si tu veux pouvoir toucher la joueuse, il faut que tu en connaisses un maximum sur ce qui la ferait vibrer pendant la partie. Et en fait, pour connaître, je vais pas te demander de poser des questions à la joueuse sur ses émotions à elle. On va passer par le personnage. C'est ça le truc. Et donc, il faut que tu connaisses un maximum de choses sur son personnage. Et donc, en fait, il faut que tu poses plein de questions sur la joueuse de chasseresse. Et le mieux, en fait, tu peux les poser par le biais du MJ, bah, d'y voir comment ton personnage de chasseresse, c'est quoi qui est important pour elle, qu'est-ce qu'elle aime bien, tout ça. Mais évidemment, tu poses la question dans le but de définir des prix à payer qui ont un rapport après. Hein. Le plus élégant, moi, ce que je préfère faire, en fait, c'est. Bon, il y a des fois où tu n'auras pas le choix, tu poseras les questions avec ta voix de confidente. Mais le mieux, c'est que si tu peux poser les questions à travers un figurant, tu vois. Donc, comme ça, tu restes dans l'aventure. Et puis, même le simple fait d'échanger avec, de discuter avec un figurant sur des trucs intimes, c'est plus fort, je pense, que de discuter avec la confidente. Parce qu'on reste dans le jeu. Ça pourrait être, par exemple, ah oui, mais tu rencontres le bûcheron. Il n'est pas hyper pressé de te dire où se trouve la biche. Avant, il se dit, bah attends, on va se poser. On se fait un petit bivouac. Moi, je t'offre un peu du fruit de ma chasse et de ma cueillette. J'allume un bon feu. Et puis, voilà, je te pose deux, trois questions sur ta vie. Ah oui, est-ce que t'as laissé quelqu'un à la maison? Ah ouais, t'as un bébé, tu l'aimes bien ton bébé et tout? Alors là, tu vois, il y a deux effets. Là, je dis, ah, tu l'aimes bien ton bébé. Question innocente. Soit la joue, si tu veux, elle va me dire, bah non, je m'en fous de mon bébé. Alors, vous avez sans doute entendu qu'il y a un bébé dans le podcast, parce que je suis en train de changer le mien et tout ça. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous pas de mon bébé. Je l'aime, mon petit bébé. Oh, j'ai fait des chatouilles, là. Petit farceur. Mais bon, elle, en l'occurrence, la chasseresse, elle peut très bien répondre, ouais, les bébés, c'est juste un problème, quoi. Je m'y intéresse pas. Bon, dans ces cas-là, en tant que confidente, bon, bah, tu sais qu'il va falloir taper à côté, quoi. Mais des fois, bah finalement, le fait que tu lui poses la question dans un moment de calme, en fait, c'est ça que j'insiste. Les questions, faut les poser dans les moments de calme, d'introspection, quoi. Si c'est en plein milieu de la bataille, je peux dire que la réponse, elle va être plus, bah, je me défends. Non, non, je m'en fous des bébés, je m'en fous, je m'en fous. Tandis que si tu poses un moment de calme, bah, la joueuse, elle va réfléchir et elle va être tentée d'humaniser son personnage en disant, ouais, bon, c'est vrai que je suis encore parti en laissant mon bébé à la maison, mais bon, sérieux, là, c'est la dernière chasse, et quand je reviens, je vais faire un peu plus gaffe, quoi. Et là, bim, t'as gagné. T'as gagné parce que t'as humanisé le personnage, parce que tu vois un peu plus quelles sont les cordes sensibles du personnage, et tu vas pouvoir faire des trucs avec, quoi. Et puis donc, et l'autre truc que tu peux faire, c'est, ah bah, la joueuse te répond, oh, je m'en fous des bébés, et tout, c'est vrai que le mien est resté à la maison, mais je m'en fiche un peu. Et là, le bûcheron, il fait, ouais, ok, mais il y a quand même bien quelque chose, quoi. La joueuse va dire, non, non, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la biche. Donc là, soit le bûcheron, il répond, attends, tu t'intéresses juste à la biche? T'as pas un autre centre d'intérêt, il n'y a rien d'autre qui est important pour toi. Là, elle pourrait dire, ah bah si, il y a quand même cette dame dont je suis amoureuse. Ou alors, elle va dire, non, il n'y a que la biche. Là, dans ces cas, c'est pas grave, tu creuses. Le bûcheron va faire, attends, mais pourquoi est-ce que tu tiens tellement à tuer cette biche? Et là, par exemple, elle va dire, c'est parce que mon père n'a jamais dit qu'il était fier de moi, et donc moi je veux choper la biche, eh bien, pour lui prouver que je suis une grande chasseuse, et du coup il m'aimera enfin. Ah! Et là, bim! Ça y est, toi, confidente, tu sens que la joueuse, elle a mordu à l'hameçon, elle t'a lâché un truc sur son personnage. Et là, tu vas pouvoir jouer avec. Le prolongement de ça, c'est donc donner pour reprendre. C'est dans deux cas de figure. Soit, si tu veux, bon, bah, la joueuse, franchement, elle te lâche rien sur son personnage, tu vois. Ouais, non, moi, la chasseuse, je m'en fous de tout. Soit, elle t'a lâché des trucs, mais tu vois pas trop tout de suite, là. Tout de suite maintenant, comment tu vas pouvoir faire pression avec? Bah, par exemple, on a établi que le bébé il a été kidnappé bah, pendant que la chasseuse elle allait explorer la forêt. Tu sais pas trop, bon, visiblement. La joueuse elle fait ouais bah je m'en occuperai après que la biche soit là. Tu sais pas trop quoi faire avec ça. Tu dis bah il faut que je. En fait, bon ok, elle a vraiment pas beaucoup d'attaches, il n'y a rien qui lui est précieux. Et ben c'est pas grave, je vais lui faire des cadeaux. Et donc par exemple, Il y a un jeune écuyer, effectivement, qui vient voir la chasseuse dans la forêt. Il fait oh, ouais, j'ai appris que vous étiez la plus grande chasseuse de tous les temps. Moi, je veux faire partie de votre chasse et j'ai entendu votre histoire avec la biche et tout. Moi, je vous admire et tout. Tu peux même aller, tu peux y aller plus loin. Tu peux dire oh, tu sens même que peut-être il a l'air un peu secrètement amoureux de toi, même s'il te l'avouera sans doute jamais parce que tu l'intimides tellement. Voilà, tellement t'es belle. Tiens, là en plus je suis un peu cruel parce que je me sers d'un des symboles. Je me sers d'un des symboles de la joueuse pour ça, toucher ses cordes sensibles. Là, l'écuyer il fait oh, j'admire votre persévérance. Ainsi de suite. Alors là, si tu veux, je donne un être. Je peux donner une chose, hein. Ça peut être. Bah, on a établi que la chasseuse avait donné son arc. Ça peut être bon là je casse un petit peu mon prix donc faut pas le faire trop souvent mais mettons qu'elle ait donné son arc à un moment comme prix à payer. Ah bah tu rencontres un ermite qui t'offre qui te fabrique un nouvel arc qui est magnifique et le bois de l'arc contient par exemple un souvenir avec ton père que tu avais perdu. Tiens, là, je lui offre un truc qui est vraiment important. Tu vois comme j'utilise la magie, notamment pour rehausser la valeur d'un objet? Parce que c'est quand même pas facile, je pense. Enfin, tu peux offrir des objets, mais c'est pas hyper facile d'offrir des objets qui vont avoir une vraie valeur sentimentale pour la joueuse. Donc c'est pour ça que là, je donne un petit côté magique à l'objet. Pour augmenter sa valeur sentimentale, ça veut dire que si je perds l'arc, je perdrai pas uniquement un arc sympa. Bon, surtout que la notion d'arc sympa dans un jeu où il n'y a pas de chiffres, hein, c'est pas un arc plus 10, quoi. Hein. Elle est pas forcément évidente, quoi. Hein. Après, tu peux rendre sympa en disant, par exemple, l'équivalent de, un peu comme si c'était charger son cœur. Cet arc-là, si tu veux, tu pourras tirer une fois une flèche avec et tuer quelqu'un sans payer de prix. Là, si tu veux, j'en ai fait. Pour le coup, un arc sympa par la mécanique de jeu. Bon, effectivement, le coup de cet arc contient un souvenir précieux avec ton père que tu avais oublié, donc tu peux avoir ce souvenir. Là, j'en fais, voilà, j'utilise la magie, je rajoute un truc en plus qui fait que l'arc aura une valeur sentimentale pour la joueuse. Alors, c'est pas une science exacte, hein. Ça se trouve, je vais offrir des trucs à la joueuse, elle va juste pas s'y intéresser. Hein. Peut-être même des fois, la joueuse, ça arrive, hein, elle va sentir que je lui offre des trucs pour lui reprendre après, elle va peut-être les refuser direct. Hein. Mais à la rigueur, dans ces cas-là, dis-toi que le refuser le cadeau, c'est déjà du jeu. Ça dit quelque chose de la personnalité du personnage, quoi. Pour la joueuse, c'est déjà un jeu en souffrance en quelque sorte, quoi. Dans le sens où fait oh non, écuyer, va-t'en, va-t'en, ne reste pas avec moi, je vais te porter malheur, de toute façon, je suis maudite. Ça, c'est intéressant aussi, hein. Donc, t'en risques rien. Vas-y, fais des cadeaux, pose plein de questions, fais des cadeaux. Des fois, ça fera mouche, des fois, tu trouveras complètement à côté. Mais dans tous les cas, tu créeras de l'aventure, tu créeras de l'histoire. Dans tous les cas, tu vas avancer. Donc, l'autre. Le dernier truc, en fait, c'est une fois que t'as posé des questions, connaître pour faire mal, une fois que t'as fait des cadeaux, donné pour reprendre, bah, justement, une fois que tu as donné, bah, tu vas reprendre. C'est-à-dire qu'avec toutes les informations que tu as, tu vas pouvoir poser des prix à payer qui sont vraiment personnalisés, qui vont vraiment impacter la joueuse. Bon bah, si on a défini que la joueuse, elle voulait, le personnage voulait, je voulais quand même revoir son bébé pour s'en prendre bien soin après la chasse, eh bien, on peut dire, ah ouais, la biche, elle s'enfonce tellement loin dans la forêt que si jamais tu peux la rattraper, mais dans ces cas-là, tu reverras jamais ton bébé. Attends, il va être tué par les. T'as le sentiment qu'il va être tué par ses ravisseurs, quoi. Ainsi de suite. T'as donné l'écuyer. Bon bah là, l'écuyer, je le reprends dans la situation où ah bah le cerf vous charge, l'écuyer va pour s'interposer, donc peut-être qu'il va mourir si. Mais comme ça. Peut-être qu'il va mourir pour te sauver, est-ce que tu le laisses faire? Là, forcément, comme on a joué du temps avec l'écuyer, donc tous ces cadeaux, voilà, ben ça va vraiment impacter, quoi. Donc c'est vraiment un jeu où il y a des moments où tu vas prendre du temps, hein. Alors ensuite, bon, les prix à payer, ça paraît un peu simple à gérer quand finalement, tu vas me dire quand on joue avec juste une joueuse, quoi. Mais en fait, dans la plupart des jeux de rôle, et Influenza Minima est tout à fait dans cette idée-là aussi, tu as plusieurs joueuses. Bah là déjà, j'ai l'ogre et chasseresse. Et donc, tu as des situations, par exemple, il y a deux personnages qui veulent s'entraider. Et là, en fait, l'idée, c'est que toi, la confidente, tu vas demander. Tu vas te tourner, on va dire, vers la joueuse qui est à l'initiative du truc qui est demandé, ou qui te paraît la plus concernée par la situation. Et tu vas lui demander en qui elle a confiance pour gérer la situation. Mettons que c'est Chasseresse et Ogre qui sont en collaboration sur un truc. Chasseresse, elle peut dire, bah non, j'ai pas confiance en Ogre, je préfère gérer la situation toute seule, ou au contraire, non, non, ouais. Effectivement, j'ai confiance en Ogre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, une fois qu'on a désigné la personne qui prenait la situation en main sur tout le groupe, alors les autres, elles agissent si tu veux bien, mais on va dire que la personne qui a la situation en main, c'est celle qui fait le truc le plus signifiant dans l'histoire. Et en fait, c'est à cette personne-là que tu vas annoncer le prix à payer. Donc, c'est un prix à payer personnalisé pour elle. Et si la personne elle refuse de payer le prix, eh ben c'est foutu définitivement. Donc c'est pour ça que c'est important, hein, la question en qui t'as confiance pour gérer la situation, parce que si la personne de confiance finalement elle se dérobe, eh ben c'est foutu foutu. Hein. Et enfin, tu vas avoir le cas de deux personnages l'un contre l'autre. Eh bien, dans ces cas-là, deux personnages l'un contre l'autre. Attends, je vais regarder mes notes parce que c'est un peu technique. Conflit 1, conflit simple, conflit duel. Tac. Déjà, d'abord, il y a une notion de voix. C'est-à-dire que. Si tu joues par exemple avec 5 joueuses, il y a peut-être deux joueuses qui vont se mettre contre trois joueuses. Bon bah c'est pas compliqué dans ces cas-là, c'est le nombre de voix qui compte, c'est le camp des trois joueuses qui l'emporte. L'autre et en fait les joueuses elles peuvent une joueuse elle peut décharger son cœur pour rajouter une voix. Donc mettons on est deux joueuses contre trois joueuses. Ah bah le clan des deux joueuses, s'il y en a deux qui déchargent leur cœur, elle monte à 4 voix, et du coup finalement c'est elle qui l'emporte. Alors attends, je vérifie la suite. Alors il y a le truc, une sorte de victoire trop facile. Généralement, si tu veux, bon c'est vrai que le camp perdant, il perd quand même beaucoup de choses, quoi, hein, parce que des fois, tu vois, vu la gravité des thèmes qu'on traite, quand tu perds quelque chose contre un autre groupe de joueurs, c'est souvent quelque chose de grave. Donc le camp perdant, de toute façon, lui, il a déjà perdu, voilà, il a déjà sacrifié quelque chose, quoi. Des fois, tu vas estimer que, bon, il y a des fois où le camp gagnant, bah voilà, il a gagné point, quoi. C'est juste que en fait, on a eu un positionnement sur la supériorité. Voilà, c'est l'histoire est cruelle. Voilà, c'est juste plus il y a de héros qui veulent un truc et plus ils gagnent. Tant pis pour les autres, quoi. Mais des fois, tu vas dire non, c'est trop facile, quoi. Et du coup, le camp du gagnant, s'il veut conserver son avantage, tu vas lui demander de payer un prix. Donc c'est du feeling, hein. Ça c'est à toi de voir, quoi. Hein. C'est vraiment en fonction de la gravité de la situation, quoi. Et donc, si des fois, en fait, le camp va être à égalité, et dans ces cas-là, tu proposes un compromis. Un compromis, en fait, c'est une situation où les deux camps, en fait, obtiennent la moitié de ce qu'ils veulent. Enfin, c'est ou alors que les je te prends un exemple bateau, quoi. Il y a deux personnages qui s'affrontent en duel. Chacun veut tuer l'autre personnage. Personne, bah, en fait, quand personne ne cède, bon, bah là, tu vas dire, ok, dans ces cas-là, si personne ne cède, vous allez vous entretuer. Donc, quelque part, tout le monde gagne, tout le monde perd, quoi. Et là, tu vois, en fait, si tu redemandes aux joueuses si elles cèdent ou si elles font monter les enjeux, par exemple, qu'il y a une joueuse qui va dire, ouais, bah, dans ces cas-là, je claque, je décharge mon cœur, et comme ça, moi, je monte à 2 contre 1, et puis je gagne sans problème, sans compromis. Ou alors, il y en a peut-être une qui va dire, ah non, le compromis, c'est bon, il est trop dégueulasse, je préfère perdre. Bon, vu le compromis que j'ai donné, combat à mort, si je propose le compromis, c'est que les deux perdent, les deux meurent. Généralement, le compromis est choisi, quoi. Mais après, je peux être différent, je veux dire. Mais en fait, vous blessez tous les deux tellement que vous êtes hors combat. Et en fait, vous allez perdre votre gloire et votre réputation, quoi. Peut-être qu'il y a une joueuse qui va estimer que ça, c'est plus pire que la mort. Et donc, du coup, elle va peut-être se coucher, quoi. Encore une fois, tout le. L'intérêt, et puis aussi peut-être la difficulté, hein, n'ayons pas peur des mots, de ce jeu, c'est que tout est circonstanciel, quoi. Tu dois toujours arbitrer en fonction des circonstances, quoi. Sur l'arbitrage, justement, à la rigueur, il y a une règle qui peut t'aider, c'est le jeu en cruauté. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tu dois toujours être la plus cruelle possible. Donc, quand tu proposes des prix à payer, des compromis, il faut qu'ils soient dégueulasses. Il faut que ça se paye tout de suite. Il faut clairement que ça pose problème au personnage. Il faut faire aucun état d'âme. Et pourquoi je conseille le jeu en cruauté? C'est pas parce que je suis un sadique, hein. C'est parce que c'est pour l'expérience de jeu. C'est l'expérience de jeu qui vaut ça, quoi. Je considère que. Si les joueuses, elles aiment bien ce type de jeu que j'appelle le jeu moral, elles sortiront de l'aventure ravies parce que justement, t'as joué en cruauté, quoi. Parce qu'on a mis leur personnage vraiment, vraiment au pied du mur, vraiment devant des choix, vraiment durs, quoi. Donc, faut pas avoir de scrupules à jouer le plus cruel possible. De toute façon, au pire, si t'as peur d'aller trop loin. Il y a toutes les précautions que j'ai dit avant, donc tu cumules en fait. D'un côté, tu joues en cruauté, de l'autre, tu prends toutes les précautions oratoires que j'ai expliquées, les votes avec les pouces et compagnie. Et puis comme ça devrait le faire, quoi. Alors ensuite, la suite de mes conseils. Avant, j'en ai de l'heure. Je vais pas te faire un truc trop long. Ok, 1h17, c'est déjà pas mal. Bon, connaître pour faire mal, donner pour reprendre, ça j'ai déjà expliqué. Conseil avancé, ouais. Alors le premier, c'est le Deus Ex Machina. C'est en fait, c'est des initiales pour retenir. En fait, c'est des. Quand tu sais pas à quoi jouer. Tu dis, ah ouais, là, je sais pas quelle péripétie faire et tout. Tu puises dans le Deus Ex Machina, ça te donnera des idées. Le Deus Ex Machina, donc c'est les lettres D-E-U-S, la lettre Ex, enfin, une fausse lettre, et puis ensuite Machina, ça veut dire quoi? Le D, ça veut dire destin, tu joues le destin des personnages. Ben, c'est un truc tout bête, c'est que en fait, tout ce qui va arriver aux personnages est lié à leur quête. Donc tous les figurants, pour un homme chasseresse qui cherche la biche, tous les figurants qu'elle va rencontrer, tous les décors qu'elle va rencontrer, ça va être lié à sa quête, tu vois. Soit par coin. Soit c'est des personnages qu'elle va rencontrer des figurants qui ont la même quête qu'elle, ou qui peuvent l'aider, ou qui veulent faire la même chose, mais contre elle, genre un autre chasseur qui veut tuer la biche avant elle, ainsi de suite. Ou au contraire, des trucs qui répondent. Par exemple, on va rencontrer quelqu'un qui refuse de tuer le moindre animal, qui a le visage couvert d'un voile pour même éviter d'avaler des moustiques par erreur, quoi. Et ainsi de suite, quoi. Tout doit faire écho à la quête des personnages. Ensuite, on a le E. Et le E, il veut dire émotion. T'as compris qu'on cherche à faire ressentir des émotions fortes à la joueuse. Et pour y arriver, pour créer une empathie, toi, par rapport à tes figurants, tu dois décrire les émotions de tes figurants. Donc, quand un figurant parle, s'exprime, soit tu fais passer ses émotions par le ton de sa voix, soit tu dis franco, ah, le figurant est en colère, le figurant pleure, soit tu le fais par la description du figurant. Et si tu peux y arriver, essaye aussi de faire passer des émotions par le décor, quoi. Une forêt, elle peut exprimer la colère parce que y a le vent qui bat dans les branches. Elle peut exprimer la tristesse avec les feuilles mortes qui tombent lentement. La joie avec une forêt printanière, ainsi de suite. Et tu peux demander ce que ressentent les personnages. Soit en tant que confident, tu poses la question. Ouais, elle en est où la chasseresse là dans ses émotions, tout ça? Ou alors tu le fais par le biais d'un figurant, le bûcheron qui demande à ce stade de votre quête, comment vous vous sentez, ainsi de suite. Le U ensuite c'est univers, c'est-à-dire que tu vas décrire des choses qui sont liées au marqueur de Milvaux. Donc là, je rappelle la forêt, les ruines, l'oubli, l'emprise, l'égrégore, les Orlas. Et donc. Bah, par exemple, l'emprise, c'est la transformation. Ah bah tiens, je vais dire qu'en fait, la biche, avant, elle était humaine, tu vois. Et donc, au moment où tu rencontres la biche, Asresse, tu te rends compte que elle a des yeux, par exemple, elle a encore ses yeux qui sont humains, quoi. Et on dirait bien qu'avant, elle était humaine complètement, quoi. Oh, bah, la chasseresse, elle va peut-être retenir son arc et puis se poser la question ou pas. Mais bon, c'est intéressant qu'on ait amené ça, quoi. Et ça, on a utilisé les thèmes de l'univers pour amener du jeu, de l'émotion, des trucs, quoi. Donc les symboles, bon, ça j'en ai déjà pas mal parlé, hein. Tu dois décrire des choses qui sont liées aux symboles des personnages. Surtout les prix à payer, quoi. Comme la chasseresse et la beauté et persévérance, bah, je demanderais des prix à payer qui seraient de renoncer à des trucs qui seraient de peut-être renoncer à sa beauté, quoi. Par exemple, peut-être que le bûcheron il va dire eh ben oui, je vous dis comment trouver la biche, mais en échange vous me laissez faire une entaille sur votre beau visage, en quelque sorte, parce que voilà, je supporte pas la beauté. Donc ça, donc là on a fait DEUS. Le X c'est explique. En fait tu vas être tenté, moi je vois ça quand même souvent, il y a pas mal de jeux. Ou si tu veux, le maître de jeu, bon, ici qu'on appelle la confidente, il fait des mystères. Tu vois, il n'explique pas tout. Si tu veux avoir les mystères, faut que la joueuse ait l'enquête. Dans ce jeu-là, franchement, fais pas de mystère. Enfin, c'est-à-dire, s'il y a un mystère qui émerge, il faut que faut que t'expliques le plus rapidement possible. C'est pareil, les joueuses, elles vont faire des mystères aussi entre elles. Elles vont, toi, pas trop dire des trucs sur leur personnage. Par exemple, la chasseuse, elle va dire, non, mais je veux pas vous dire pourquoi je veux à ce point tuer la biche, et ainsi de suite. Donc, amène les joueuses à révéler leur mystère, quoi. Fais des liens entre les personnages, tu vois. L'ogre et la chasseresse, pour le moment, ils ont pas tellement de liens entre eux à part la biche. Mais peut-être que tu vas inventer un autre figurant qui va faire le lien entre eux, du genre ah bah en fait, t'es la nourrice de la chasseresse qui va se présenter à elle et puis qui va dire tu sais que quand t'étais petite, je t'ai élevée en même temps que l'ogre, donc vous êtes en fait quelques frères et sœurs de nourrice, quoi, ainsi de suite. Donc tu crées des liens. Si tu sens que les liens entre les personnages sont faibles, faut que tu en crées, quoi. Et tu vas pouvoir utiliser des flashbacks et des flash-forwards pour le faire, ça je vais expliquer ça après. Ensuite, on a le machina. Donc, refuser le Deus ex machina, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un figurant ou un événement qui vienne aider comme ça de nulle part, qui vienne aider le personnage à avancer dans sa quête, ou qui sauve le personnage in extremis et tout. Franchement, les personnages ils peuvent faire leur quête, c'est juste que généralement ils vont y arriver après avoir payé X prix à payer. Bon, je sais pas, si tu fais une séance de 1 demi-heure, ils auront peut-être payé 3 prix. Si tu fais une séance d'1 heure, ils auront payé 10 prix et ainsi de suite, quoi. Mais ils peuvent atteindre leur objectif du moment qu'ils sont prêts à payer tous les prix que tu vas demander, quoi. S'il y a un figurant qui arrive et qui leur permet d'arriver à la fin, qui leur donne tout gratos, là ça coince quoi. Tu peux le faire à la limite en milieu d'aventure parce que en fait, ce Deus Ex Machina en quelque sorte c'est une offrande et t'as prévu qu'il soit sacrifiable plus tard quoi. Mais en fin de partie, non, surtout pas. Hein. Les solutions, c'est les joueuses qui doivent les trouver, c'est les personnages qui doivent aboutir à leur quête. Vraiment, c'est eux le maître à bord du navire, quoi. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que si tu veux les figurants, il n'y a pas de prix à payer pour les figurants. Les figurants, ils n'ont aucune règle qui les. Il n'y a pas de règle pour eux, quoi. Le prix à payer, c'est vraiment la joueuse, quoi. Alors vite fait, un petit peu de principe d'improvisation. Fouille dans ta mémoire tes anciennes parties de jeux de rôle ou les films, les trucs que t'as déjà vu récemment. N'hésite pas à les remettre, hein. C'est pas grave, hein. Cherche pas à être original, hein. Tu peux reprendre l'intrigue du film de la veille. Du moment que tu arrives à articuler ça avec les objectifs du personnage, il n'y a aucun souci, quoi. Quand les joueuses, elles font des suggestions. Tu leur dis oui quoi, hein. Tu joues en miroir quoi, et puis après tu développes un petit peu quoi. Hein. Si tu vois que les joueuses s'intéressent à un truc en particulier, tu développes autour. Recycle, fais du recyclage, c'est-à-dire les éléments que tu as déjà apportés, les motifs, esthétiques, les intrigues et tout, tu les reprends en les développant plutôt que de voilà, t'es pas obligé d'inventer un nouveau figurant à chaque scène. Tu peux faire réintervenir le même figurant, c'est même plutôt pas mal parce que il y aura de l'empathie qui va se créer avec lui, tout ça, l'histoire sera plus forte quoi. Donc parce que des fois on se sent obligé de ouais tout le temps rajouter de nouvelles péripéties, des nouveaux personnages, tout ça, mais en fait le recyclage c'est très bien parce que ça fait une histoire qui se tient mieux. Sinon, des fois, fais une pause. Hein. Tu dis, voilà, on fait une pause café là, s'il vous plaît. Puis t'en profites pour réfléchir, quoi. Des fois, tu peux même mettre cash, hein, dire aux joueuses, bon, là, on prend 5 minutes parce que j'ai besoin de réfléchir, quoi. Et puis, Annie, pendant ce temps, tu les fais jouer. Tu dis, concentrez-vous sur, réfléchissez à vos propres priorités, à la marche à suivre que vous voulez avoir pour la suite. Putain, le truc, c'est lâcher prise, en fait. Hein. Arrêtez de vous dire, non, faut que je fasse une bonne histoire et tout. Non, non, on est juste là pour vivre une aventure, quoi. Hein. Donc, tu te contentes d'annoncer, de balancer des prix à payer, t'appliques les règles que je t'ai données, là, le connaître pour faire mal, donner pour reprendre, le Deus Ex Machina, tu les fais dans l'ordre un peu que tu veux, quoi. Les as de les charger son cœur aussi, et puis voilà, quoi. Hop. Les tours invisibles, c'est quoi ça? Eh bien, c'est que tu vas. En fait, tu vas t'intéresser tour à tour à chaque personnage, à tour de rôle, quoi. Et puis, mais tu le fais sans le dire, quoi. Tu dis pas, bon, là maintenant, je vais faire le tour de la chasseresse. Non, tu tournes vers la joueuse et puis tu racontes un truc qui la concerne, quoi, intime, qui concerne son personnage intimement. Et comme ça, tu tournes. Ça, c'est juste pour que toi, tu sois sûr de traiter à égalité les autres, les histoires de chaque personnage, parce que même si leurs objectifs sont liés, il y a quand même plein de trucs très perso qui vont leur arriver. Donc, si tu veux que ce soit équilibré, les tours invisibles, c'est pas mal. Alors, étoffer l'univers, bon là, c'est vraiment des règles avancées, hein. Par exemple, utilise la mémoire comme monnaie. Il y a la petite obole, c'est-à-dire que tu veux acheter quelque chose, tu payes avec un renseignement, un souvenir ou un récit. Alors bon, les récits, c'est bien de les comment de les même tu peux vendre un rêve. Alors c'est bien à chaque fois de demander quelque chose d'intense. Par exemple, ouais, la personne veut bien réparer ton arc, mais elle veut que tu la payes avec le pire souvenir de ta vie, quoi. Alors la joueuse va te dire, mais on n'est pas censé être amnésique. Ouais, mais là tu vas lui dire, attends, quand même le pire souvenir de ta vie, tu dois quand même t'en rappeler, tu crois pas, quoi. Quelque part, en fait, il y a aussi, au pire, il y a un truc magique qui est que quand quelqu'un te demande de payer avec une obole, quelque part, ça génère un souvenir, quoi. Voilà, tu peux le voir comme ça, quoi. Ou sinon, il y a la grande obole. Bon, en fait, la petite obole, en fait, c'est une sorte de connaître pour faire mal, c'est juste là, t'as glané une information supplémentaire, quoi. La grande obole, c'est... Soit le souvenir qui va être raconté va être perdu à tout jamais. Ça peut être par exemple, bah, ouais, bah, le pire souvenir que j'ai avec mon père, c'est que en fait, mon père me battait. Et la grande obole, donc, c'est une fois que tu racontes le souvenir, il est perdu. S'il est perdu de plusieurs façons, tu vas avoir au feeling. Soit effectivement, tu vas dire, ouais, ok, si tu lui racontes ça, eh bien, tu oublies que ton père était violent. Et quand tu vas revenir le voir avec la tête de la biche, eh bien, il va te battre parce que voilà, et comme ça, il est violent. Il trouvera une excuse, mais il va te battre à nouveau, quoi. Et tu peux pas, tu peux, je considère que comme tu as oublié que ton père était violent, dès que tu auras tué la biche, tu iras force. La première chose que tu iras faire, c'est d'aller voir ton père, parce que tu m'as quand même dit que tu voulais qu'il soit fier de toi, tout ça, machin, quoi. Ou sinon, ça peut être que c'est la personne, comment, c'est la personne à qui tu vends le souvenir, elle va s'approprier complètement le souvenir. Et donc, tu sens que la personne, elle est vraiment. Elle croit en fait que ton père, c'est le sien. Elle croit qu'elle a été battue, du coup. Et donc, tu vois, dès que la transaction se finit, tu la vois partir en courant. Alors, soit elle t'en dit pas plus, mais c'est un peu vache. Soit tu peux être vraiment dans l'information, la transparence et dire, bah en fait, si tu fais ça, la personne, elle va essayer de tuer ton père parce qu'elle s'est tellement approprié le souvenir, ta souffrance, tout ça, que la seule façon d'aller mieux, c'est ça, quoi. Bon, il y a plein d'autres façons, hein. Tu en trouveras peut-être une autre façon qui est une circonstance de la grande obole. Donc, c'est vraiment quand il y a une conséquence très grave d'avoir vendu un de ses souvenirs, quoi. Le pacte de sang, en fait, quand deux personnages font un pacte de sang, ils prennent un engagement magique. Et s'il y en a un qui rompt l'engagement, peut-être qu'il peut mourir ou encourir une autre conséquence grave magique. C'est pareil, c'est des formes de prix à payer, mais un petit peu intégrées dans l'univers. Les flashbacks, eh ben, c'est par exemple, ah, raconte-moi le pire souvenir de ta vie, ouais, je me faisais battre par mon père. Et en fait, si tu veux, au moment où la joueuse elle dit ça, peut-être ça n'a pas tellement d'impact dans sa tête. Et donc le mieux que tu puisses faire, c'est jouer en flashback. On va jouer la scène. Bon, peut-être là, c'est le moment de dire, ça va, est-ce que c'était d'accord pour qu'on joue en flashback? Parce que bon, une scène d'enfant battu, c'est quand même un peu lourd, quoi. Si la joueuse dit oui, on va le jouer. Et là, tu joues le père qui la bat en disant, ouais, de toute façon, t'es nul, t'as été maladroit, t'as laissé échapper un lapin, tu seras jamais une bonne. Et ainsi de suite, tu amplifies le souvenir comme ça. Et les souvenirs, c'est toujours dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la joueuse, elle a le droit de jouer la chasseresse pendant le souvenir, quoi. Elle peut dire, bah, j'essaie d'échapper à ses coups de ceinturon, ou je lui réponds, non, papa, arrête, tu te trompes, ainsi de suite. Et à la rigueur, elle peut. Bon, là, il y a deux façons de gérer. Soit on part du principe un peu tacite que ouais tu joues le flashback mais effectivement il y a quand même certains paramètres qui sont figés et on sait très bien que son père l'a batté. Mais tout le reste est non dit. Donc quelque part, eh bien la chasseresse elle peut très bien dire bah écoute je tue mon père en état de légitime défense. Bah en fait on n'avait pas défini que le père était toujours vivant. Peut-être qu'elle a dit qu'elle revenait voir le père, c'était juste aller sur sa tombe. Et là, tu peux dire, ouais, ok, très bien, tu la tues. Ou alors, tu peux, même si c'est dans le passé, demander un prix à payer. dire ah ouais bah en fait ton père s'est débattu et c'est comme ça que tu t'es fait crever un œil quoi. Et du coup on n'avait pas dit que la chasseresse avait un œil crevé, mais là maintenant bim on actualise sa description, effectivement elle a un œil crevé. Ainsi de suite. Alors sachant que si tu veux, moi ce que j'adore faire, c'est ce qu'on appelle le vertige logique. C'est quand tu fais interagir deux réalités. C'est-à-dire que par exemple, là, tu peux très bien dire, ah ouais, bah en fait, tu vois ton père arriver, bah, vu la tête qu'il a, c'est effectivement ton père du passé, mais il arrive dans le présent et il te bat toi adulte. Et en fait, tu vois, je mélange comme ça les réalités, ça crée vraiment un impact fort, quoi. Et puis en plus, ça renforce l'impression ultra magique de la chose, quoi. Ou ça peut être, on te fait regarder par le trou d'une serrure et derrière la porte, tu vois la scène du passé, ainsi de suite, quoi. N'hésite pas. Alors sinon, dans les flashbacks, ce qui est important, c'est ce que j'appelle la clause de vaudeville. Tu sais, dans les vaudevilles, il y a toujours un bonhomme, le théâtre de vaudeville, genre Ciel, mon mari, tout ça. Il y a toujours un bonhomme au milieu de la scène qui sort d'une porte ou d'un placard ou d'une cheminée, tout ça. Et en fait, ça veut dire que les autres joueuses, si elles veulent, leur personnage n'est pas censé être dans le flashback, mais elles peuvent très bien intervenir. Genre, il y a l'ogre qui dit, bah, c'est à ce moment-là, si tu veux, que la nourrice, elle s'est amenée avec moi, quoi, et que j'ai essayé de protéger la chasseresse. L'intérêt de ça, c'est qu'on va, c'est une opportunité, la clause de vaudeville. C'est une opportunité offerte pour les joueuses de créer plus de liens entre leurs personnages, tu vois. En disant, bah à ce moment-là, ton passé, bah moi j'étais impliqué, j'étais là et tout. Donc franchement, il faut en user et en abuser parce que c'est sympa, quoi. Et donc à l'inverse, on a les flash forward. Donc par exemple. Flash forward, donc c'est on joue des scènes du futur, ça permet d'explorer des conséquences de scènes avant de les jouer. Donc la chasseuse est en train de négocier pour qu'on lui répare son arc. Le réparateur d'arc lui dit bah, raconte-moi ton pire souvenir. Elle commence à raconter son père qui la battait, tatati tatata. Et je dis bah je te préviens, c'est une grande obole, donc pour réparer ton arc, tu vas vraiment lui vendre le souvenir, lui va s'en rappeler. Je joue un flashback, en fait, tu reviens après avoir tué la biche, tu viens voir ton père et en fait tu le découvres mort, ensanglanté. Il y a le fabricant d'arc qui vient de le tuer puis qui dit ouais, je supportais pas, il me battait quand j'étais petit, tout ça, j'ai dû le tuer pour. Et là, bim, tu vois, en fait, plutôt que de dire, annoncer les conséquences dans le futur en disant, ouais, je te préviens, si tu vends ton souvenir, le vendeur d'arc, il va tuer ton père. Eh ben, je le fais jouer, quoi. Et en plus, on peut vraiment le faire jouer, hein, c'est-à-dire qu'on peut rester dans le futur quelque temps et la joueuse qui fait des dialogues, tu sais, ah, mais non, vous êtes fou, c'était pas vraiment votre père, et ainsi de suite, quoi. Là, c'est pareil, ça crée vraiment des trucs magiques. Encore une fois, on peut mélanger avec le présent en disant, tu vois, t'es dans la boutique du vendeur d'arc et tu vois ton père ensanglanté sur le sol, le vendeur d'arc qui dit, ouais, vous comprenez, je vais le tuer, il m'a battu toute ma jeunesse. Bah voilà, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, on a beaucoup de choses. Donc vous allez retrouver des comptes rendus de parties sur internet. Puis on a, je dirais, une vingtaine hein, sur Influenza Minima, il y en a certains qui sont enregistrés. Tac. Alors, j'avais dit, je prends juste une seconde pour retrouver le nom. Donc, vous allez sur le forum de Terres étranges dans Inforenza, compte rendu de partie, ou sinon sur le blog hein, d'Inforenza Minima. De toute façon, vous avez sur la page d'Inforenza Minima, vous allez avoir les listes des comptes rendus de partie. Et le compte rendu de partie tutoriel, donc. Le compte rendu de partie de la cellule. Parce que dans la cellule, on raconte ce qui s'est passé, mais ça peut être un peu embrouillé. Hein. Donc, du coup, le compte rendu de partie de la cellule écrit s'appelle la photographie. Et donc l'autre compte rendu de partie où c'est un MJ qui joue, un confident qui joue, et moi je lui explique tout tout en jouant. Ça s'appelle. Alors je vais le trouver, hein. Ça prend une petite seconde. Ah bah non, je l'ai pas. C'est incroyable ça. Ah si si. C'est aux grands mots les grands remèdes. Voilà. Et donc celui-là, vous l'avez aussi sur ma chaîne YouTube en enregistrement, quoi. Donc voilà. Et puis sinon, de toute façon, il y a plein de comptes rendus de parties sur Internet. Donc n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ce podcast. Bah justement, qu'est-ce que vous pensez de la formule jeu de rôle transmis par l'audio? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Patati patata. N'hésitez pas à proposer vos propres JDR aussi sous ce même format. Moi, je trouverais cool qu'il y en ait plus. Hein, personnellement, je fais un petit appel aux auteurs de jeux. Je pense que si vous mettiez vos jeux en podcast, eh bien, je les écouterais, alors que j'aurais peut-être pas forcément le temps de lire vos jeux. Sur ce, voilà, c'était la fin des règles d'Inforenza Minima, conte cruel dans la forêt de Milvaux. Vous retrouvez tout le matériel sur le blog outsider.rollpod.net. Et je vous invite aussi à me soutenir hein, sous la forme que vous voulez. Donc sur le blog, il y a une petite page qui s'appelle Soutenir et qui explique toutes les façons que vous avez. Déjà rien qu'en écoutant ce podcast et éventuellement jouant après dans le métro, dans le train, eh ben, vous apportez déjà une grande forme de soutien. Donc je vous dis au revoir, je vous aime et à la prochaine.